J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée.
Palabre en forêt, l'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Bartas
107 FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Bonjour les auditrices, bonjour les auditeurs de Radio Bartas 107 FM. Nous revoilà dans une nouvelle émission de Palabre en forêt. Bonjour Margot.
Bonjour Virginie, bonjour à toutes et tous.
Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Margot ?
Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter le recueil réalisé dans le cadre de la charte forestière Sud-Lozère, qui présente des projets de construction réalisés en bois local. Et ensuite, on accueillera Aymeric Sulmont, qui est toujours garde-moniteur au Parc national des Cévennes. Et aujourd'hui, il nous parlera, entre autres, du robinier, qui est une essence qu'on trouve sur notre territoire.
Alors, pour les auditeurs qui ont l'habitude de t'entendre tous les mois dans Palabre Forêt, donc on connaît bien Margot, hein, mais quand même, est-ce que tu pourrais, pour celles et ceux qui raccrochent aujourd'hui, te présenter, s'il te plaît, présenter tes missions au sein du PETR Sud-Lozère ?
Oui, alors du coup, je m'appelle Margot Lepetit, je suis ingénieure forestière de formation et je travaille du coup au sein du PETR depuis décembre 2021. Et donc je suis animatrice de la charte Sud-Lozère, donc c'est-à-dire qu'on fait du développement territorial via la forêt. Donc on essaye de promouvoir le bois local, d'accompagner les filières, de communiquer, de sensibiliser tous les publics. Donc ça va des élus aux propriétaires, au grand public, etc.
Alors aujourd'hui, donc tu l'as dit, on va parler de bois local avec un recueil que vous avez réalisé. Alors d'abord, pourquoi utiliser du bois dans les projets de construction ? Pourquoi du bois local ?
Alors, le bois, c'est un matériau qui est super intéressant. Donc déjà, c'est un matériau qui est durable et on dit qu'il a un bilan carbone négatif. Alors pourquoi bilan carbone négatif ? Parce qu'il répond à la logique des 3 S. Donc c'est ce qu'on appelle... En fait, ces 3 S représentent donc la séquestration du carbone en forêt lors de la croissance de l'arbre. Via la photosynthèse, il va capter du carbone. Le stockage, donc c'est le deuxième S. Donc le carbone, il va être stocké durant toute la vie en fait du bâtiment. Il va être stocké dans les bois. Et puis la substitution, le troisième S, c'est-à-dire qu'en fait on a la place d'utiliser des matériaux qui peuvent être plus polluants comme l'aluminium, le ciment ou autre. Et ben en fait on va utiliser du bois qui peut stocker du carbone. Il a également des caractéristiques techniques qui sont assez intéressantes. Donc il a une meilleure performance thermique que le béton par exemple. Il est également plus léger. Et même s'il est plus léger, il a une portance similaire aux autres matériaux qu'on utilise pour la construction. Donc c'est quand même super intéressant. Et puis le dernier point, c'est l'intégration dans le paysage. Le bois, c'est quand même super joli. Donc plutôt qu'utiliser des crépis ou des choses comme ça, un bardage en bois sur les bâtiments ou sur les maisons, ça c'est particulièrement joli à regarder.
Tu me fais penser en présentant tous les avantages du bois aussi. Le maire de Rousson, qui a eu un projet aussi récemment avec du bois local, trouvait comme autre avantage qu'il est réparable.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Ça c'est
vrai.
Sympa aussi.
Ouais, c'est vrai. C'est un peu dans notre projet de mobilier en pin maritime qu'on a en parallèle. C'est vrai que c'est un des paramètres qui a été avancé, c'est que ça peut être réparé à l'infini en soi, en remplaçant les pièces qui peuvent se dégrader au fur et à mesure. Ouais.
Donc c'est durable.
Bah ouais.
Ok.
Et puis pourquoi bois local ? Parce que y a plein d'avantages. On va avoir une réduction du transport plutôt qu'importer du bois d'autres régions forestières, voire d'autres pays. On le coupe et on l'exploite en local, donc moins de transport. Et puis on a aussi une valorisation et l'entretien des massifs via l'exploitation des bois. Et notamment nous, dans les contextes de feux de forêt, ça peut être intéressant d'avoir une intervention régulière dans les peuplements, un entretien des pistes, etc. Et puis c'est de l'emploi local, que ce soit pour les bûcherons, pour les exploitations, pour les scieurs, pour les menuisiers. Donc que des avantages à l'utilisation du bois local.
Merci. Et alors, d'où est venue cette idée de concevoir ce recueil de projets en bois local ?
Mais en fait, il existe déjà plein de projets en bois local sur le territoire, et l'objectif, c'est un peu de les mettre en avant, de pouvoir les présenter les principales caractéristiques pour communiquer et donner envie en fait de construire en bois local, montrer que c'est possible, que c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Et donc, c'était un peu l'objectif principal, quoi. Et puis aussi d'apporter quelques éléments techniques sur les classes d'emploi des bois. Donc, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment de communiquer, sensibiliser sur l'utilisation de cette ressource-là.
Merci. Et tu peux nous présenter du coup quelques projets qu'on y trouve, des petits projets peut-être ?
Eh bien, en petits projets, on a par exemple les aires de jeu en bois qui sont réalisées par Seven Evasion, donc qui est une entreprise de Florac. Donc il y en a une par exemple à Saint-Étienne Vallée Française. Mais en fait, il y a plein d'autres communes qui ont également qui ont profité de cet appel à projet. Donc il y a des financements européens leaders qui sont alloués pour ces projets-là. Et en fait, c'est des projets qui sont construits en consultation avec les écoles, les habitants, pour voir qu'est-ce que les enfants aimeraient avoir dans les aires de jeu mises en place. Et si ça vous intéresse, il y a donc une émission qui avait été faite donc de Palabre en forêt, l'émission 14, où on avait, j'étais pas là à l'époque, mais Virginie et Lucille avaient interviewé
Bénédicte
Michard, ouais, qui était gestionnaire du GAL au PETR, et donc qui avait présenté un peu ses projets plus en particulier, ouais.
Et on peut y voir alors des projets chez des privés.
Ouais, c'est pas que des projets publics. On a aussi donc notamment des bâtiments agricoles à Vébron, où c'est des projets intéressants parce que c'est les bois des forêts des propriétaires qui ont pu être valorisés, donc avec des coûts de bâtiment qui sont très faibles, et puis une réflexion avec également l'architecte pour essayer d'optimiser les volumes de bois utilisés et pour avoir des bâtiments à structure un peu optimisée, et notamment avec un bâtiment où on était en cœur de parc pour avoir une intégration au paysage la mieux faite possible.
Ouais, c'est très intéressant. Et il y a aussi des projets un peu plus, avec plus de surface.
Ouais, plus de surface, plus de volume, et aussi qui ont coûté plus cher. Mmh. C'est par exemple la maison du tourisme et la maison du parc à Florac, donc à l'ancienne gare. Où là, par exemple, c'est du bois BTMC, donc bois des territoires du Massif Central, qui ont été utilisés. Et cette labellisation, en fait, elle certifie l'origine du bois. Donc, comme ça, on est sûr d'avoir du bois local. Donc, on entend par local bois ici du Massif Central. Et c'est aussi du bois qui est issu de forêts gérées durablement. Donc, en fait, c'est les entreprises qui se certifient. Et puis le marquage, il peut donc concerner les entreprises de première et seconde transformation de bois, et les architectes et bureaux d'études, ils peuvent adhérer à ces démarches-là en étant prescripteurs de bois certifiés dans les cahiers des charges, etc., demander du bois BTMC.
Comme ça, ils sont sûrs d'utiliser du bois local, parce que c'est pas forcément évident.
Non.
Et voilà. Et alors, quelles essences locales ont été utilisées, par exemple, dans ces projets ?
Ouais, il y a plusieurs essences qui peuvent être utilisées selon, où va être utilisé le bois, en intérieur, en extérieur. Et en fait, il y a une classification d'emploi des bois qui, en fait, classe selon la durabilité naturelle, les caractéristiques d'imprégnabilité, c'est-à-dire la facilité de traitement des bois. Chaque essence, et comme ça nous guide un peu. Donc en fait, on a quatre classes de résistance. Donc la première classe, c'est les bois qui sont qui peuvent être utilisés uniquement en intérieur et sans humidité, donc pas dans les salles de bain. Donc on a par exemple le sapin, qui est du coup pas très résistant. Après, on monte un peu en résistance avec les bois qui peuvent être utilisés en intérieur ou sous abri, avec un peu une exposition à l'humidité, mais plutôt occasionnelle, donc en charpente, en ossature sur bois. Et là, on va avoir le pin maritime, le pin sylvestre. Et puis, quand on a besoin d'utiliser du bois en extérieur, mais sans contact avec le sol, donc par exemple les fenêtres, les bardages, là on peut utiliser du chêne, du châtaignier, du mélèze, du douglas, après la purge de l'aubier, donc c'est-à-dire qu'on enlève en fait le bois tendre, entre guillemets, et on garde uniquement le bois de cœur qui est plus résistant. Et puis la quatrième classe, c'est le bois qui peut être utilisé en extérieur avec contact au sol, donc qui est particulièrement exposé donc aux champignons, aux insectes phytophages, etc. Et on va avoir du coup le robinier qu'on a sur notre territoire et qui pourrait être utilisé.
Dont Émeric Silman nous parlera tout à l'heure.
Et si le sujet vous intéresse, il y a le CIRAD qui édite des fiches qui s'appellent Fiches Tropics. Et pour chaque essence, on a un peu les caractéristiques principales, que ça soit caractéristiques techniques, mais également classe d'utilisation. Enfin, il y a plein d'informations et on peut le retrouver facilement sur Google.
On tape Fiche Tropique, ce Cirad et on trouve. Ok, super. Et du coup, le recueil des projets en bois local du PETR Sud Lozère, comment on le trouve?
Eh bien, on peut le retrouver sur le site internet des chartes, donc forêtcosséceven.fr, qui est donc en diffusion libre. Donc, je vous invite à aller le voir si le sujet vous intéresse.
On y court.
Voilà. Et Virginie, toi, est-ce que du coup, côté Pays Seven, il y a des projets construction bois que tu aimerais nous présenter?
Oui, on peut peut-être parler d'un projet assez récent qui est assez emblématique. Il y a eu à Rousson, sur la commune donc de Rousson, la création d'un groupe scolaire. Donc c'était un bâtiment plutôt conséquent parce que l'objectif c'était de pouvoir accueillir plein d'enfants, mais pas que de Rousson, des alentours aussi. Et du coup, pour ce beau projet, il y a eu le choix d'utiliser des matériaux locaux, de la pierre de Pont du Gard, du bois bien sûr, et du béton. Voilà, pour des raisons aussi de coût. Mais ce mariage de matériaux a été assez intéressant. En fait, ça a été le premier bâtiment du Gard à utiliser aussi des bois certifiés, bois des territoires massifs centrales dont tu as parlé tout à l'heure. Et là où ça a été intéressant, c'est que le maire de Rousson, il a voulu pousser encore un peu plus loin en faisant quelque chose de qu'on retrouve pas partout non plus. Il a voulu que le mobilier scolaire soit en bois local. Et ce qui a été possible, il a été fait. Voilà, les plateaux des écoliers, les tables des cantines, les bureaux des maîtresses sont faits en châtaignier et ça a été construit par une menuiserie qui est à moins de 20 km du projet, une menuiserie de Méjeanne Les Alès. Voilà.
Super, c'est super intéressant, des projets aussi impliqués pour l'utilisation du bois local. Et pour finir sur le sujet, est-ce que tu peux nous parler de la réglementation pour la construction des bâtiments qui, me semble, du coup, incite de plus en plus à l'utilisation du bois?
Oui, tout à fait. Alors, comme tout le monde le sait, pour construire des bâtiments, souvent pour l'isolation, etc., on a des normes. On doit respecter des réglementations. Jusqu'à la fin 2021, il y avait la réglementation thermique 2012, qu'on appelait la RT 2012. Ça parle pas mal à tout le monde. Donc, ça concernait bien sûr les projets publics, mais aussi les projets privés. Et depuis le 1er janvier 2022, on est passé sa RT. La RT 2012 change et on l'appelle désormais la RE 2020, la réglementation environnementale 2020. Donc il y a toujours des normes pour l'isolation, etc. Mais ce qui change, c'est qu'il y a l'analyse cycle de vie des bâtiments qui est pris en compte. Ce qui signifie qu'en fait, aujourd'hui, le choix des matériaux, et notamment qui sont peu émetteurs en carbone, en gaz à effet de serre, sont privilégiés. Donc c'est une chance pour le bois, parce que comme tu l'as rappelé tout à l'heure en début d'émission, le bois permet une construction en bas carbone, quoi. Et il stocke le carbone tout au long de sa vie, même une fois coupé. Donc cette réglementation pour les projets privés et du coup en vigueur depuis le 1er janvier. Et pour les projets, les bâtiments tertiaires, ça va entrer en vigueur là en juillet, cet été quoi. Et petit à petit, il va y avoir tous les secteurs qui sont concernés. Alors ça concerne uniquement maintenant les nouveaux permis de construire pour de la construction. La rénovation n'est pas encore impactée.
Ok, donc une aubaine pour la valorisation de nos bois et bois locaux idéalement.
Tout à fait.
Donc si le sujet vous intéresse, pour rappel, vous pouvez retrouver le recueil avec plein d'informations sur l'utilisation du bois local en construction sur le site internet des chartes forestières Sud Lozère et Pays Cévennes.
Merci Margot. Vous êtes toujours sur Radio Barta 107 FM, c'est le moment de la pause musicale et on va retrouver donc Georges Moustaki avec Les Eaux de Mars. C'est une petite suggestion d'un propriétaire forestier à Soustelle.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre. C'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil. C'est un piège entrouvert, un arbre millénaire. Un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie. C'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit. C'est la neige qui fond, le mystère profond. La promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide et le néant. C'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine. Un reste de racine, c'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose. Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire. Une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte. C'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour, le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue. Un pas, un pont, un crapaud qui croasse. C'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces. Ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. C'est Jacques, un serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond, pas et peine. Et un fin de camino, et un reste de toc, et un poco sozinho. Pas une pierre, chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire. Pas une pierre, chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire.
On passe maintenant à notre rubrique Plantes et animaux des bois, où on retrouve Aymeric Sulmont. Bonjour.
Bonjour.
Donc, tu es toujours garde-moniteur au Parc national des Cévennes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous présenter ?
Eh ben, je vais rebondir sur le sujet dont tu as parlé tout à l'heure, sur le robinier. Le fameux robinier, c'est cet arbre qui est de classé 4, qui peut donc être utilisé en extérieur, sans dommage, pendant plusieurs dizaines d'années, sans trop de problèmes. Donc il a plein de qualités, et ça, les professionnels du bois le savent. Et puis il a des défauts, on va en parler aussi. Alors le robinier, le brunier, c'est un arbre qui nous vient des États-Unis, qui nous vient des Appalaches. Et qui a été introduit par le fameux Robin, qui était le botaniste du roi Henri IV en 1602. Alors, ça dépend des dates selon les sites, mais bon. Et donc, il a planté un robinier à Paris. Et il se figure que ce robinier qui est planté à Paris est toujours vivant. Et ça, et c'est tout simplement l'arbre le plus vieux de Paris, qui est dans le 5e. Donc, vous chercherez cet arbre. Donc, il est tout fatigué. Mmh. Il a un été en béton qui le soutient, etc. Ah ouais. Il est très surveillé puisque c'est l'arbre le plus vieux de Paris. Mais voilà, c'est la petite anecdote du robinier. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le robinier ? Eh bien, c'est vraiment un arbre qui est extrêmement présent dans les Cévennes, essentiellement le long des voies de communication. puisqu'il a beaucoup été utilisé pour stabiliser à la fois les ballasts de chemin de fer, mais aussi les routes. Et ce qui fait qu'avec les lentes du Japon, ce sont deux espèces qu'on voit très communément au bord des routes et de toutes les voies de communication de France d'ailleurs. Et on le trouve également, parce qu'il s'échappe très facilement au bord des rivières, il est très, très présent le long des rivières. Et donc ça peut poser des soucis quand il est abondant avec la végétation locale. Et donc il est considéré comme une espèce envahissante, mais en même temps, les espèces envahissantes, le coût pour lutter contre est tellement élevé que la bonne technique, c'est plutôt de faire avec. En général, c'est-à-dire de prendre en compte leurs besoins et pourquoi elles sont là, et d'essayer d'aller dans le sens inverse si possible, mais tout en douceur. Donc pour le robinier, qui est une espèce qui se reproduit par drageon, à partir du moment où vous avez un arbre, et si vous le coupez net, vous allez avoir sur toutes les racines qu'il avait, des sorties de jeunes robiniers, et vous, de votre prairie qui était à peine envahie par un robinier, vous allez avoir toute la prairie qui est envahie entièrement par le robinier. Ça, c'est un risque, il faut bien connaître comment fonctionne le robinier si vous voulez vous en débarrasser petit à petit. Et le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est soit de laisser pousser une végétation de bord de rivière classique avec des aulnes, des saules, avec des frênes, et petit à petit lui fourreront ombrage et diminueront la présence du robinier, mais ne l'élimineront pas. Il ne faut pas chercher à éliminer le robinier si c'est ça notre but, ça ne marchera pas. C'est un peu comme pour le pin maritime, il est là, il faut faire avec. Et puis il faut prendre en compte toutes ses qualités. Les apiculteurs le connaissent très bien, il fait un excellent miel, et tous ceux qui travaillent le bois l'adorent parce que d'une part, il résiste bien, mais aussi c'est un bois d'œuvre qui est très beau à travailler et qui est résistant. Voilà. Et on peut l'utiliser en bois de chauffage aussi, ça c'est presque dommage, et en piqué, en parquet, et il a vraiment énormément d'usage. Je trouvais ça important sur les espèces invasives de faire ce topo sur globalement. C'est pas forcément gênant d'avoir une espèce invasive dans un milieu, dans une forêt, dans une rivière. Ce qui est important, c'est qu'il y ait la place pour les autres espèces. Et donc, ce qu'aime beaucoup le robinier, c'est les coupes rases. Donc, quel que soit l'endroit où vous faites des coupes rases, le travail est tellement impactant et blessant pour le sol que bien souvent, on introduit du robinier. Et ce robinier, c'est une espèce pionnière, il va très souvent prendre le dessus sur les espèces locales. Et ça peut être un problème. Ça peut être ce qui peut être recherché, mais si on veut planter d'autres essences, on se retrouve avec énormément de robiniers. Et traverser un fourré de robiniers, c'est pas comme traverser un fourré de châtaigniers. C'est extrêmement piquant.
Donc il vaut mieux favoriser les interventions légères, la gestion en irrégulier éventuellement, pour limiter la propagation du robinier.
Exactement, mais ça c'est globalement pour toute gestion forestière, il vaut mieux y être léger. Si on y va légèrement, c'est plus doux pour la nature, et plus doux aussi pour le sol, et plus durable, clairement. Voilà le petit topo sur le robinier. J'avais envie de vous faire un petit détour aussi sur les propriétés du robinier. Je crois que chacun a déjà essayé les beignets d'acacia. D'ailleurs, on appelle ça acacia alors que c'est pas du tout un acacia. Le robinier, c'est bien la famille des trèfles et du genêt, de toutes ces papillonacées ou fabacées, du petit pois, de la fève et tout ça. C'est la même famille que ça. Et l'acacia, ça n'a rien à voir. C'est la famille des mimosas, des mimosacées. Et donc, le mimosa est un acacia. Mais le robinier n'est pas un acacia. Du coup, on l'appelle robinier faux acacia. Ça, c'était pour la petite anecdote. Donc, les fleurs ont des propriétés intéressantes. Je cite un Fournier qui avait fait un dictionnaire des plantes médicinales en 1930. Il dit que donc elles sont calmantes, antispasmodiques, légèrement toniques, astringentes, émollientes et cholagogues. Alors ça, c'est tous des mots un peu barbares. Cholagogue, c'est ce qui améliore la sécrétion de la bile. Voilà, donc elles ont plein de bonnes propriétés, ces fleurs, mais c'est toujours pareil, comme toute chose, il ne faut pas en faire des excès, parce qu'au bout d'un moment, c'est toxique. Ah. Et il y a un médecin avant lui, en 1860, signale l'utilisation du robinier pour ses propriétés vomitives. Et donc, il parle de l'écorce et les racines, vu la présence du principe acre, jouissent de propriétés vomitives très prononcées. Qui rapproche ses racines, alors le goût se rapproche de celle de la réglisse, donc il faut bien s'en méfier, puisque des chevaux ayant rongé de l'écorce de cet arbre éprouvèrent de violentes coliques. Un en mourut, et puis un autre médecin rapporte que des enfants qui en avaient pris éprouvèrent 3 heures après des malaises, des nausées, des vomissements et quelques-uns des légers mouvements convulsifs. Bref, on ne mange pas les racines de robinier, oui. Même si on veut s'en débarrasser.
Merci pour ce point d'attention.
Et donc la petite question qui pose à l'époque en 1860, c'est ne pourrait-on pas tirer parti de cette propriété vomitive? Et là, il en reste là. C'est-à-dire qu'en 1860, on ne sait pas beaucoup plus sur le robinier, et c'est beaucoup plus tard que Fournier fera des détails sur toutes les propriétés et toutes les molécules qu'il y a dans le robinier. Et globalement, c'est un arbre qu'on aura qu'on n'utilise pas trop en médicaments, même s'il est vomitif, on préférera d'autres vomitifs que celui-là.
Et la gomme d'acacia, alors, ça vient aussi du robinier ou...
Non, la gomme d'acacia, c'est un acacia exotique qui n'est pas du tout présent chez nous.
Voilà. D'accord.
Ouais. Voilà. Qu'est-ce que... Oui, alors j'aime beaucoup parce que les graines de robinier, contiennent aussi un principe toxique comme le bois. Mais ils en proposent qu'on peut faire un ersatz de café avec. Donc c'est un peu douteux. J'aime bien ce qu'on peut lire dans un bouquin comme ça, qui est un peu ancien. C'est qu'à la fois c'est toxique, mais à la fois on peut en faire du café. Je ne conseille ni l'un ni l'autre. Hein, bref.
Et on a entendu aussi parler qu'il était riche en tanins ou...
Oui, c'est un bois, sauf l'aubier qui est souvent pauvre en tanin,
mais
tout le bois est très riche en tanin. Et c'est ce tanin d'ailleurs qui protège aussi des ravageurs.
Voilà. Ouais.
Et de toutes les molécules toxiques dont j'ai parlé dans ce bois, c'est ce qui le rend en fait très durable et très peu attaqué par les champignons ou par les insectes. Voilà, et donc je me disais que la prochaine fois, je vous parlerai des araignées pour changer un peu, mais je n'ai pas assez d'informations pour vous en parler maintenant, si ce n'est que les araignées, elles sont bien craintes par la plupart d'entre nous, et même moi, au début, quand on voit une araignée près des toilettes, on est toujours un peu inquiet. Et en fait, c'est très intéressant, les araignées, parce qu'elles reflètent, par leur diversité dans tous les milieux, elles reflètent la bonne qualité et le bon fonctionnement des milieux. Puisque ce sont toutes des prédatrices, quand vous avez un grand nombre de prédateurs dans un milieu, c'est que le milieu est en bonne santé et a de nombreuses proies à fournir à ses prédateurs. Et ça, c'est ça qui est intéressant. On le retrouve dans beaucoup de chaînes alimentaires. Quand il y a de nombreux prédateurs, c'est que tout va bien.
Ah.
Voilà.
Ok. Eh bien, merci Aymeric Sylvain.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Vous êtes toujours sur Radio Bertha 107FM. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous souhaitons avoir une pensée pour Pierre Mathieu, l'inimitable scieur du hameau de Chalappe de Sénéchas, amoureux du châtaignier, qui vient de nous quitter. Nous pensons à sa famille et nous ne l'oublierons pas. Vous souhaitez aborder aussi un autre sujet sur la forêt ou sur le bois en particulier? N'hésitez pas à nous en faire part à l'adresse mail suivante corto@radiobertha.net. À bientôt, Margot.
À bientôt.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligot, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée.
Palabre en forêt,
l'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Bartas
107FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.